Maintenant un bon podcast.
Et bonjour à toutes et tous, c'est Philippe Nourin, le responsable de Funforge, qui nous accueille. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Voilà, alors nous sommes au deuxième jour du salon de Essen et le fameux Isla Dorada tourne à plein régime. C'est un jeu qui attire l'œil déjà parce que on a une illustration, tu as encore trouvé un illustrateur qui arrache, on va dire, puisque visuellement on a envie de s'asseoir et de jouer. Donc déjà, bravo. Voilà. Et Isla Dorada, c'est un jeu de Bruno Fedutti. Alors quelle est l'histoire justement qu'il y a derrière cette fameuse boîte?
Voilà, elle est longue. L'histoire qu'il y a derrière cette dernière boîte, tu veux que je commence par où? Les dinosaures?
L'invention du carton.
L'invention du carton, oh la vache. L'histoire qu'il y a derrière ce jeu est un peu compliquée. Ouais. C'est un jeu sur lequel Bruno travaille depuis une dizaine d'années. Donc ça remonte maintenant. Ouais. C'est une idée initiale, il explique qu'il y a l'historique qui est très bien expliqué aussi sur son site. L'idée initiale en fait qu'il a eue, c'était après avoir joué à Elfenland ou Elfenroads, il adorait les plateaux de ces jeux-là, il adorait les jeux aussi tout court. Il avait envie de réutiliser les plateaux qu'il trouvait vraiment super pour en faire d'autres jeux. Enfin, ce qui pouvait être soit une suite, soit une extension à ces jeux-là. Et puis au fur et à mesure des années, il se trouve que ça donnait pas forcément des choses qui étaient les plus intéressantes du monde. Il a ensuite rajouté par-dessus une idée qui vient du jeu de Andrea Angelino et Pierre Giorgio Paglia, qui sont aussi co-auteurs, ainsi ouais. qu'Alan Moon d'ailleurs, ouais. qui sont aussi co-auteurs.
C'est là qu'on retrouve Elfenland ou les aventuriers du rail, c'est-à-dire Alan Moon a justement c'est le créateur d'Elfenland.
Ouais.
Et on retrouve justement cette logique de passer d'un endroit à l'autre en essayant de s'arranger le mieux pour soi.
Ouais, tout à
fait. Parle pas bien français aujourd'hui.
Non, mais c'est parce que t'es belge.
Oui, ça doit être ça.
c'est bon ça. Et donc en fait ces idées-là ont mûri petit à petit. Il a rajouté donc une mécanique du pion unique qui est utilisé dans Ulysse différemment mais qui est quand même là. Et il s'est trouvé qu'en fait cette mécanique du pion unique sur ces plateaux là fonctionnait très bien. Il a développé une flopée de prototypes vraiment les uns après les autres par rapport à ce jeu là qui ont donné en fait, quand il nous l'a présenté, un jeu qui s'appelait à l'époque Merchant de Caravane, qui était un peu près celui-ci mais avec un thème totalement différent, qui était un thème plus classique de marchand qui font du commerce de diverses marchandises plus ou moins inintéressantes. J'ai beaucoup aimé la mécanique, on a testé, on a trouvé ça vraiment sympa, c'était fluide, ça marchait vraiment bien, mais le thème n'était pas forcément le plus intéressant du monde, donc on a décidé de travailler sur le thème avec Bruno, je lui ai proposé ce thème-là, et il se trouvait que ça marchait très bien, voire presque mieux, puisque ça a amené des nouvelles idées de cartes qu'on a développées ensuite, qui ont rendu le jeu plus marrant, un peu moins sec, quoi, voilà, plus rigolo, et au final, ça a donné ce jeu-là. Mais c'est une longue aventure, quoi.
Ok, donc Isla Dorada, c'est une histoire d'aventurier qui s'échoue sur une île, leur zeppelin a crevé.
Qui s'écrase.
S'écrase carrément.
Les zeppelins s'échouent rarement en fait.
Oui, s'ils flottent, ils finissent par s'échouer. Donc ils s'écrasent sur une île et ils vont se retrouver tous ensemble et ils décident de rester ensemble pour finalement s'en sortir.
En fait, ils n'ont pas tout à fait le choix. C'est-à-dire que l'histoire, c'est qu'ils s'écrasent sur une île, ça se passe en 1934. Ouais. C'est quand même anecdotique, hein, mais bon, j'aime bien. Ils s'écrasent donc sur cette île qui est quand même inconnue au milieu de l'océan Atlantique et ils rencontrent les natifs du coin qui sont très pacifiques, qui leur expliquent que depuis la nuit des temps ça arrive. Il y a toujours des gens qui débarquent chez eux comme ça. Des fois ils viennent de la mer, des fois ils sortent d'une grotte, des fois on les trouve dans la forêt, des fois comme eux ils s'écrasent dans des pleins. Voilà. C'est depuis des millénaires. Et ces gens-là arrivent et ils restent un certain temps, parfois 2 jours, parfois 300 ans. Et puis ils finissent par repartir comme ils sont venus. Les joueurs donc, qui jouent ces explorateurs qui sont un peu des chasseurs de trésors réalisent que l'île est remplie de trésors. Ils ont tous des objectifs qui sont différents, qui sont des trésors à aller récupérer dans les différents sites de l'île. Mais l'île est aussi extrêmement dangereuse. Donc ils ne peuvent pas voyager seuls. Ils sont obligés de voyager tous ensemble. Et c'est là où le jeu devient même très tordu. Il y a toute une mécanique d'enchères qui va faire que les joueurs vont tenter de prendre le contrôle de l'expédition à chaque tour pour l'amener là où ils veulent.
D'accord.
Et bien sûr, là où moi je veux aller, toi tu veux pas forcément, voire tu veux carrément l'éviter parce qu'il y a aussi des lieux dans lesquels on est maudit et où on veut pas aller. Et par-dessus ça se rajoute une destinée qu'on a dans cette île-là, qui a un objectif secret à réaliser tout le long de la partie, qui est long et un peu compliqué à réaliser, mais qui par contre est extrêmement rémunérateur. Et donc on va on va à chaque tour vraiment tenter de reprendre la main tout le temps. C'est un jeu où tout le monde cherche à tirer la corde à soi. Ça a été très bien résumé par un internaute sur Board Game Geek, qui en gros, je traduis mal en français, mais c'est un jeu où on joue tous ensemble les uns contre les autres.
Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'au départ, on en parlait comme un jeu coopératif, c'est pas du tout le cas.
Pas du tout. C'est un jeu...
on est juste l'un sur l'autre, mais c'est pas coopératif
ouais,
du tout.
Voilà, c'est ça. C'est un jeu où on a l'impression de jouer tous ensemble parce qu'on se déplace tous ensemble, mais on joue pas du tout tous ensemble. On a tous des intérêts très divergents.
Tout à fait. Alors je disais l'un sur l'autre parce que justement, d'un point de vue design, il y a un pion sur lequel sont représentés les différents visages des différents explorateurs. Et là, c'est déjà visuellement très intéressant.
Ouais, voilà. Les figurines sont un petit peu overkill, on va dire, à ce niveau-là. Moi, je suis super fan de ce qui a été fait là-dessus. Effectivement, il y a un pion d'exploration qui représente tous les aventuriers, on va dire. Chacun regarde dans une direction différente et on sent que bon, la franche camaraderie ne règne pas forcément au milieu de cette expédition.
Alors une question se pose, que faisaient-ils tous dans un zeppelin avant de s'écraser? Pourquoi est-ce qu'ils étaient tous... Ils partaient quelque part?
Ouais, tout à fait. C'est une expédition qui s'appelle l'expédition Columbia, dans l'histoire, qui partait à la recherche de l'Eldorado. Voilà. Et donc c'est effectivement des chasseurs de trésors, des explorateurs, sauf qu'à la base, ils y allaient tous ensemble, mais ils sont tombés en plein milieu d'un coffre au trésor, et l'appât du gain et la vénalité les a rattrapés, et les bas instincts humains font surface tout de suite.
Tiens, ça c'est bizarre. Alors, on disait, c'est un jeu d'enchères, puisque on va avoir des cartes qui vont représenter différents moyens de transport et qu'on va jouer pour essayer d'influencer. Comment est-ce que ça se passe cette chose-là? Puisque finalement, si on essaie tous de tirer sur une corde dans des directions différentes, évidemment on ne bouge pas.
Alors, en fait, la mécanique est assez simple, elle est même très simple à ce niveau-là. On a différents types de cartes. Un des types de cartes sont ce qu'on appelle les cartes d'aventure. Donc, parmi les cartes d'aventure, il y a des cartes qui sont des moyens de déplacement. Donc, ce sont des montures, plus ou moins schématiquement, qui vont permettre de parcourir des chemins qui sont typés différemment sur l'île. Il y a des chemins de jungle, il y a la montagne, il y a le désert, il y a toutes les voies aquatiques, fleuves, lacs, mers. Et il y a aussi les voies aériennes. On peut se déplacer en draco, qui est une espèce d'oiseau volant géant, on peut se déplacer en zeppelin. Ils ont reconstruit un petit zeppelin de briquet de broc qui vole pas très bien, qui peut juste voler sur l'île. Et donc en fait à chaque tour on va collecter ces cartes là, on va monter sa main en fait de cartes d'aventure qui vont permettre de nous déplacer. Et on va proposer des directions. Chacun son tour, il y a toujours un chef d'expédition qui a un sceptre, on voit le petit sceptre là-bas, qui a un sceptre fort sympathique et très avenant d'ailleurs, avec des têtes de mort partout.
Ça donne un peu l'idée.
Voilà, qui va être le premier à parler, qui va proposer une destination. Ensuite, tous les autres joueurs vont en chérir, les uns après les autres.
En mettant des cartes devant, en montrant les cartes.
Alors, ils ne les montrent pas, on annonce simplement. Par contre, on n'a pas le droit de bluffer parce qu'il faut qu'on ait les moyens de payer si on remporte l'enchère. Donc on annonce, ça tourne jusqu'à temps qu'un joueur ait une enchère qui ne soit pas recouverte par les autres, auquel cas il devient le nouveau chef d'expédition, il prend le contrôle de l'expédition, il amène l'expédition là où il voulait aller, on place un marqueur sur ce site-là, on résout les actions, on gagne les trésors, on subit les malédictions, etc.
Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'on a des cartes cachées, mais quand on tombe sur un lieu, on est obligé de révéler les cartes qui justement activent une malédiction ou activent un trésor.
Ouais, tout à fait, c'est-à-dire que quand on arrive dans un lieu, on est maudit, donc voilà, et on peut pas tricher à ce niveau-là, puisqu'il y a des marqueurs de tours qui sont placés sur tous les sites que l'expédition a visités. Donc si à la fin de la partie un joueur révèle sa main et on se rend compte qu'il n'a pas joué sa carte malédiction, de toute façon il va la subir à ce moment-là et il en perdra les points. Donc
pardonne pas.
Voilà, on ne peut pas tricher.
Non.
On peut se pourrir, on peut s'engueuler tout le long de la partie, mais on peut pas tricher.
Okay. Donc la mécanique elle est là. Le but du jeu c'est quoi finalement?
C'est de repartir le plus riche.
D'accord.
Ça se joue en 16 tours. À l'issue des 16 tours, il faut qu'on soit le plus riche de toute l'expédition. Donc c'est-à-dire on gagne des points en remportant des trésors, on gagne des points en remplissant sa destinée, on gagne des points en conservant son or, puisqu'on en a un certain montant au départ, on n'en regagne jamais dans la partie, on ne fait que le dépenser, et on en perd en étant maudit. Et donc l'équilibrage de tout ça, on passe son temps à équilibrer tous ces paramètres-là pour être celui qui finira avec le meilleur score, donc le plus riche de l'expédition. On reste quand même des chasseurs de trésors.
Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, donc ça c'est la mécanique du jeu. Visuellement, il y a effectivement des figurines qui sont très jolies, qui sont très grandes. Donc c'est un choix de Funforge d'avoir fait ça.
Alors c'est un choix collectif de Funforge et de Fantasy Flight Games.
D'accord.
Puisque le jeu est coédité avec Fantasy Flight. Et en fait, Fantasy Flight, ils aiment bien les figurines en plastique. C'est leur dada. Nous, on n'était pas spécialement arrêtés sur... C'était bien sûr le choix parfait, les figurines en plastique. Après, ça aurait été des punchboards sur des socles avec des figurines en carton bien illustrées, décorées. Ça, pour nous, ça aurait été bien aussi, mais la figurine en plastique, c'est vraiment parfait. Donc,
ça ajoute une dimension.
Voilà, ça rajoute à l'immersion et c'est le côté rigolo parce que le Bigfoot a une tête complètement débile, que le Léviathan est un peu flippant, voilà, le plan d'expédition est très parlant, donc bon, c'est tout sauf désagréable au final.
Ouais. Et justement, ces figurines-là, donc la figurine expédition, on l'utilise, mais le Léviathan et le Bigfoot, on l'utilise quand ?
Le Léviathan, qui est un monstre marin, et le Bigfoot sont deux figurines qui vont servir à bloquer des chemins. Ouais. En fait, on les active avec des cartes d'aventure qu'on aura dans sa main, et enfin, on les monte pas dans sa main, justement celle-ci, parce qu'elle se joue immédiatement. Dès qu'on les pioche, si on pioche le Bigfoot, on va choisir un chemin terrestre, n'importe lequel, le Bigfoot va venir le bloquer. Et il va rester là jusqu'à temps qu'un joueur vienne le déplacer. Le Léviathan va fonctionner exactement de la même façon sur toutes les voies aquatiques, que ce soit la mer, les fleuves ou le lac.
Alors, on l'a dit visuellement, ça arrache. Tu as trouvé un illustrateur.
Ça déchire.
Ça déchire, ouais. Pardon, mais ça dépend des régions.
Ça défonce même.
Ça. Ah oui, oui, ouais, ok, ouais. D'accord. Donc, tu as trouvé un illustrateur. L'année passée, avec Pony Express, on avait Mathieu Beaulieu.
Mathieu Beaulieu, ouais.
Qui c'était son premier jeu illustré.
Tout à fait, ouais. Depuis, il a illustré Sobek pour Gameworks, entre autres. Ouais.
Et là, tu as trouvé encore quelqu'un qui n'est pas connu à la base.
Dans
le milieu du jeu.
Xavier, alias Nayad, voilà. Puisque ce n'est pas une fille, malheureusement pour beaucoup de gens qui espéraient arriver
et voir fille au stand.
Une grande brune pulpeuse sur le stand.
Elle est brune, mais elle n'est pas pulpeuse.
Voilà.
Donc bonjour Nayad, tu es l'illustrateur d'Isla Dorada. Est-ce que tu peux me raconter un peu la rencontre qui a eu lieu avec Philippe Noura et donc Funforge pour finalement arriver à cette création ludique?
Alors Philippe, il m'a contacté, je crois qu'il était passé par mon blog. Non, je ne me souviens plus comment il m'a contacté.
En cherchant sur internet.
Ouais, je crois, oui. Bon, enfin, il m'a contacté. Ah voilà, il avait vu un précédent boulot. Et donc j'ai passé un test, en fait j'ai fait un essai sur une illustration qui n'avait rien à voir avec le style Isla Dorada. Enfin, j'avais tapé complètement à côté, mais ça a marché quand même. Et puis bah, après on a continué, au début ça a été un petit peu difficile parce que j'avais pas trop confiance.
Confiance en quoi? En toi ou en lui?
Oui, c'était la première fois que j'illustrais.
En lui je comprends.
Bah oui, je le connaissais pas. Mais c'est la première fois que j'illustrais un jeu de société en fait. Et c'est la première fois que je me lançais vraiment dans de l'illustration. Donc
ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Allez, tu avais déjà des expériences d'illustration, tu avais déjà travaillé dans pas d'illustration, donc figurine et dessin.
Voilà, je faisais juste des personnages au trait, donc pas de décor, pas de couleur.
Mais quand même dans un contexte un peu ludique ou pas?
Oui, c'était pour des jeux de figurines.
Et donc quelle est la grosse différence? Quel est le choc que tu as eu en disant, ben voilà, maintenant il y a des jeux, il y a un plateau, il y a des cartes, il y a des boîtes. Le plateau, je pense que c'est toi qui l'as fait.
La grosse différence, il y a les contraintes de temps, hein, puis c'est vraiment un boulot énorme. Hein. Là, il m'avait prévenu, il y a une trentaine de cartes, il y a un plateau, il y a une boîte. Les figurines, on les fait au coup par coup, hein, c'est une par une. Et puis bah, la couleur, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Moi, j'en avais jamais fait.
Ah oui, d'accord. Et donc, ça veut dire que tu travailles comment? Tu travailles sur l'informatique ou bien tu passes bah, d'abord par un support papier?
Entièrement sur l'informatique. Je fais tout... ça va avec notre époque et puis ça va avec... c'est comme ça que j'aime travailler.
C'est une bonne manière d'échanger aussi ce qui a été fait.
Oui, c'est, en plus maintenant que... Enfin, je sais pas comment c'était avant, mais on nous demande quand même d'aller assez vite et de pouvoir retoucher les dessins facilement. Donc avec l'ordinateur, ça, c'est simple, ça va très vite.
Alors justement, qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Ça t'a appris des choses sur ton métier personnel? C'est-à-dire, est-ce que ta manière d'illustrer a évolué grâce à ça?
Pour moi c'est un changement radical dans ma vie professionnelle parce que bah, maintenant je suis sûr d'aimer l'illustration et c'est ça que je veux faire. J'ai découvert aussi comment on illustrait en fait. Je suis sûr de vouloir rester dans le jeu de société encore quelques années parce que c'est un super univers et puis grâce à ce jeu ça a pu aussi m'ouvrir des portes. Maintenant il y a des gens qui me contactent donc c'est vraiment pour moi, pour moi il n'y a rien de négatif. Oui, tout est bien pour moi, c'est génial.
Alors, autre expérience nouvelle pour toi, c'est le fait d'être sur un salon comme celui-là, j'imagine, et de faire des dédicaces pour un jeu, ça donne quoi comme impression?
Alors donc j'avais déjà fait une première fois l'expérience de la dédicace au salon à Paris, que je trouvais énorme, mais maintenant que je suis ici, en fait, ici, c'est immense, c'est énorme, mais les gens sont très gentils. Et puis, j'ai pu faire des dessins pour des personnes qui venaient des quatre coins du monde, donc...
Ça donne une image du jeu qui est assez étonnante, c'est-à-dire ça évolue de plus en plus, il y a vraiment du travail énorme qui est fait sur l'illustration, sur le visuel du jeu, et ça se ressent à travers le fait que les gens fassent la file pour avoir une dédicace de l'illustrateur.
Oui, bah, j'ai appris il y a peu de temps en discutant avec un autre dessinateur, bah, Pierrot.
Je ne sais pas qui c'est.
D'accord, bah, tu étais à côté de lui hier. Bah, en fait, ça fait peu de temps apparemment que les illustrateurs viennent sur les salons pour dédicacer. Et donc, c'est bien, on est un peu plus visible, les gens se rendent compte que c'est pas fait avec des machines ou on n'est pas des gens bizarres. Enfin, pas trop.
Il y a un débat, c'est à 17h ce soir. Effectivement, donc ça prouve que les gens se rendent compte que c'est une création et que c'est une collaboration entre vraiment beaucoup de personnes. Ok, merci Nayad, et bonne continuation, et on te suit sur le prochain jeu, alors même si c'est pas chez Funforge, quoi.
Merci.
Xavier, qui a illustré le jeu, il a pas fait le plateau. Le plateau a été fait par un autre illustrateur qui s'appelle Gorg.
Wow. Bah,
c'est pas son vrai prénom.
Ça aurait été chouette.
Il s'appelle Georges. C'est à peine mieux. T'as rien de personnel par rapport au Georges.
Non, ça va, on en reparlera plus tard.
Et donc Xavier qui a illustré en fait toute la boîte, les cartes, tous les éléments de jeu sauf le plateau. C'est un illustrateur que j'ai repéré par hasard en cherchant quelqu'un qui a un style très particulier pour ce jeu-là. Mmh. Et j'ai vu les concepts de figurines qu'il faisait à l'époque pour Alchemy.
Ah oui.
Il a fait quelques concepts de figurines pour Alchemy, il avait aussi fait quelques dessins dans Lotus Noir, enfin divers magazines de Play Factory, ouais, qui étaient plus manga pour le coup.
Ouais.
Et on a décidé, je l'ai contacté, j'ai vraiment aimé surtout ces concepts de figurines. Il y avait un style que j'ai trouvé très maîtrisé, très, très visuel, vraiment,
ouais.
Vraiment très parlant. Ça m'a séduit tout de suite, quoi. Je l'ai contacté, il était disponible et c'est la première fois qu'on lui proposait de faire un jeu complet. Donc voilà, ça a été
bien, quoi. Et ça veut dire quoi que les figurines, c'est lui qui les a faites?
Et il a designé les figurines, effectivement. Ouais, c'est Xavier qui a fait les designs des figurines et elles ont été produites par FFG qui gère la partie fabrication du jeu. Voilà. Enfin, à partir de... C'est un travail commun, on a produit le jeu ensemble et c'est fabriqué dans leurs usines. Voilà. Donc, c'est Xavier qui a designé les figurines.
D'accord. Ok, donc Funforge, 3e année à Essen.
Ouais.
Le 3e jeu.
Voilà.
Donc Illusio, Pony Express, Isla Dorada. Quelle est la situation de Funforge à l'heure actuelle? C'est une aventure dans laquelle tu t'es lancé il y a 3 ans.
Tu veux le bilan financier ou...
Non, les chiffres, je m'en fous. Je veux savoir comment toi tu te sens.
Ah bah super bien. Après ça, Funforge, ça reste une petite maison d'édition aujourd'hui. On a la chance d'avoir rencontré des auteurs qui sont des auteurs talentueux, des auteurs connus,
ouais,
qui nous ont clairement aussi aidé à ouvrir des portes. Hein. Bruno, c'est quelqu'un qui a été très précieux pour Funforge à ce niveau-là. Il a aussi, je pense, été content du travail qu'on a fait sur ces jeux, que ce soit Pony Express ou Isla Dorada. Donc aujourd'hui, ça prend, on va dire, un vrai tournant, qui est appelé à, je pense, à s'accélérer dès l'année prochaine. Donc y a plein de projets. Dont certains, je suis content de tous, mais il y en a où je suis vraiment super content de ce, d'accord, qui va arriver.
Donc des projets, ça veut dire qu'on va dépasser le jeu par an?
A priori, l'année prochaine, on va dépasser un jeu par an. Ouais.
D'accord, on peut avoir une idée?
Du nombre?
T'es très près des chiffres, toi, en fait.
je gère l'entreprise.
Non, de quel jeu on va voir, enfin... Tu peux dire les chiffres après si tu veux, si ça te fait plaisir.
Ah, tu veux
soulever le coin du voile, comme on dit.
Ah ouais, c'est un petit peu tôt quand même. Ça. Il y aura, en gros, il y aura un petit jeu,
ouais,
on va dire un party game. Il y aura un jeu moyen qui va être un jeu vraiment grand public, qui est un jeu d'Antoine Boza, je peux te le dire, qui est très particulier, avec une ambiance très particulière que j'ai trouvé vraiment très chouette. Et il va y avoir un gros jeu pour la fin de l'année prochaine pour Essen, qui va être, on va dire, pas le remplaçant, mais qui va être la nouveauté qui suit logiquement Isla Dorada, qui n'a rien à voir avec Isla Dorada, hein,
ouais,
voilà, qui est je peux te dire que ce sera un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc.
D'accord, ça c'est clair. Bien, ben voilà, c'est tout ce qu'on aura. Tu veux dire quelques chiffres?
Quelques chiffres?
Oui.
12.
Voilà, ça c'est un nombre.
Ah, pardon, 4.
Ok, merci Philippe.
Mais c'est moi.
Et bravo, c'est beau, donc il n'y a plus qu'à jouer.
Ben, merci beaucoup.
Et à bientôt pour les 25 jeux de l'année prochaine.
Les 65 jeux de l'année prochaine.
Wow, je suis impressionné.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.